Alors vous écoutez toujours Radio Campus Tours et nous sommes encore à la Vegan Place de Tours sur le boulevard Hortelou pour cette troisième table ronde. Nous recevons Florence Delry et Ludovic Sueur pour une table ronde que nous avons intitulée « Représenter, faire connaître le monde animal, regard croisé d'une illustratrice et d'un photographe ». Alors, pour faire les présentations, Florence Delry est illustratrice scientifique. Elle réalise de très belles illustrations pour des livres ou des revues. On peut notamment découvrir ses illustrations dans un livre sorti très récemment chez Delachaux, « Reconnaître facilement les animaux », qu'elle a signé avec l'écrivain et naturaliste Marc Giraud. Florence Delry est en outre une militante très active pour les animaux et c'est la marraine du Prix Maya depuis l'année dernière et on la remercie pour nous faire ce plaisir.
Avec plaisir. Hein.
Ludovic Sueur, lui, il est photographe. Alors, plutôt que photographe animalier, il se définit comme photographe animaliste, sa démarche étant entièrement tournée vers la défense des animaux. Vous pouvez découvrir son travail sur son stand aujourd'hui et on retrouve souvent ses photos en couverture du magazine de L214 et il nous a gentiment permis d'utiliser une de ses photos pour l'affiche de la Vegan Place cette année. Merci aussi à toi.
Merci.
Eh bien, on va commencer avec une première question, Merlin.
Première question pour rentrer un peu plus en matière et un peu plus apprendre à vous connaître. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a amené à vous intéresser aux animaux, à la représentation des animaux et à la cause animale de manière générale?
On commence, d'accord.
Ouais.
Moi, j'ai toujours vécu à la campagne, donc je pense que ça a beaucoup joué. J'ai toujours vécu en Ardèche, encore aujourd'hui d'ailleurs, et j'ai toujours vécu entourée d'animaux. Donc ça a beaucoup participé de mon envie de découverte, qui est toujours intacte aujourd'hui, de savoir mettre un nom sur ce qui m'entoure, et notamment les animaux, quoi. Donc les animaux sauvages, etc. Et puis il y avait aussi un contexte, moi particulier, dans mon enfance, d'exploitation d'animaux, parce que mes grands-parents avaient poulailler, clapier, pigeon, pigeonniers, etc. Et ça faisait partie aussi de la vie courante, quoi, à la campagne. Et je me suis effectivement très tôt intéressée aussi à l'intérêt de ces animaux-là, quoi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment cette vie à la campagne qui a fait que je me suis intéressée aux individus qui m'entouraient et pas seulement à Homo sapiens.
Ludovic, même question.
Ouais, de mon côté, c'est un peu la même réponse. J'ai vécu à la campagne étant jeune et entouré d'animaux. Et deux animaux, deux chiens qui m'ont appris beaucoup aussi. Et voilà. Et après, c'est toujours un grand intérêt pour les animaux, pour les individus en particulier. Pour chaque individu, je voyais toujours. J'ai jamais vu les. J'ai toujours vu les individus et pas résumé à une espèce quand je voyais un individu et un comportement. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous a conduit à l'illustration pour toi, Florence, et à la photographie pour toi, Ludovic?
Tu veux démarrer? Chacun son tour un peu.
Ok. Alors moi, je suis venu à la photographie pour les animaux, justement. Je faisais un métier qui n'avait rien à voir du tout. J'étais éducateur sportif. Et puis après être devenu VG en 89, puis vegan en 2001, ça ne suffisait pas d'être vegan, en fait. Et en 2004, j'ai décidé d'apprendre la photographie et de devenir photographe pour les animaux parce que les images ont un gros impact sur l'émotionnel et ce qui amène la réflexion après. Voilà pourquoi je me suis tourné sur cette pratique.
Et de mon côté, c'est un peu l'inverse en fait, c'est-à-dire que j'ai toujours dessiné depuis toute petite et ma mère faisait de la peinture à l'huile, notamment beaucoup de natures mortes, de scènes de nature, etc. Et elle m'a donné sa boîte d'aquarelle quand j'ai eu 18 ans. J'ai commencé à peindre des sujets, voilà, beaucoup de botanique et beaucoup d'animaux aussi. Et j'ai voulu mettre mon activité d'illustratrice, que j'ai développée par la suite, justement au service de la vulgarisation sur les questions d'éthique animale, ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai vraiment toujours dessiné, toujours dans cette optique de vouloir identifier, mettre un nom sur les individus qui m'entouraient, savoir... un peu qui ils étaient, quel était leur mode de vie, etc. Donc voilà, c'est ça ça a précédé un peu ma découverte des enjeux vis-à-vis de l'éthique animale et ça, voilà, je me sers de l'illustration pour vulgariser ces questions-là.
On sait comment vous avez choisi votre médium respectivement, on sait comment vous avez choisi cette cause à défendre à travers votre médium. Maintenant, est-ce que vous identifiez les avantages de vos médiums respectifs, les avantages et les inconvénients? Quelles seraient les limites que vous identifieriez à respectivement la photo et l'illustration?
L'avantage de la photo, mais comme de toute illustration en fait visuelle comme ça, fixe, c'est l'impact en fait le cerveau et l'œil humain est culturellement conditionné, mais pas que, pour en un dixième de seconde comprendre quand c'est bien construit, quand le dessin est bien construit, quand la peinture est bien construite la photo aussi, à dégager des émotions, mais tout de suite et inconsciemment. Et je pense que moi, c'est ce qui m'a attiré. Je trouve que c'est important parce que on voit la photo ou une fraction de seconde et ça y est, on est imprégné par elle. Voilà, donc c'était pour ça que c'était intéressant, quoi.
Ouais, de mon côté, alors c'est vrai que sur l'illustration, moi, mon métier, c'est vraiment d'être illustratrice scientifique, donc c'est quand même un axe assez spécifique. L'idée, c'est pas tellement de transmettre des émotions, justement, c'est de montrer une version neutre, en fait, des individus. Donc c'est peut-être la particularité aussi, hein, par rapport à une photographie qui est plutôt destinée à susciter l'émotion, c'est que, en tout cas, moi, dans mon cœur de métier, l'idée, c'est plutôt de proposer une synthèse d'un sujet, c'est-à-dire de montrer les caractéristiques les plus communes, les plus généralistes sur un groupe d'individus et apprendre à les identifier et les reconnaître. Donc ça, c'est plutôt mon cœur de métier. Mais c'est vrai que sur mon envie aussi, c'est par ailleurs, dans d'autres types d'illustrations, justement de transmettre aussi ces émotions. C'est notamment ce que j'avais essayé de faire l'an dernier avec la remise des prix Maya, avec des aquarelles qui étaient centrées sur les yeux des animaux et sur le regard. Et l'idée, c'était de se faire regarder par des individus non humains. Mais c'est vrai que l'avantage de la création graphique, de la création visuelle, c'est effectivement que ça attire l'œil sur un individu, une curiosité, une connaissance, etc. Je pense que l'émerveillement, l'attachement à la connaissance, connaître l'autre, c'est aussi un bon moyen de s'intéresser à ses intérêts, de davantage le respecter.
Et comment vous travaillez concrètement l'une et l'autre, Florence, pour réaliser tes illustrations? Est-ce que tu vas à la rencontre des animaux? Est-ce que tu travailles à partir d'autres sources?
Alors, ça dépend des sujets, parce que je travaille par exemple aussi en paléontologie, donc je désigne des dinosaures. Et là, aller à la rencontre, c'est un peu délicat. Ça dépend des sujets. Pour les insectes, les micro-mammifères, les amphibiens et beaucoup en fait d'individus qui vivent à la campagne autour de chez moi, c'est pas compliqué. Hein, je sors de chez moi avec soit un objectif macro, soit un grand objectif pour prendre en photo des oiseaux, divers individus. Et j'ai besoin de la photo, moi aussi, pour modèle, quoi, pour avoir des sujets, garder en mémoire les traits, etc. Mais souvent, c'est des photos que je fais, que je fais moi-même. Et je m'inspire aussi, bien sûr, de toute la documentation existante déjà dans les bases de données, par exemple des muséums d'histoire naturelle, des clés d'identification, du travail qui a été fait en amont par d'autres personnes. Mais effectivement, je me sers beaucoup de supports photos. Donc quand c'est des espèces qui m'entourent, je le fais moi, ou alors avec des croquis de terrain aussi, des croquis sur le vif. Et sinon, c'est toutes les bases de données qui existent par ailleurs.
Et toi, Ludovic, de ton côté, comment tu choisis les animaux? Comment tu travailles? Comment tu les approches?
Alors, il y a plusieurs facettes en fait dans ce que je fais. Donc, on va dire pour les individus sauvages, libres, ça va être de connaître les individus justement et de ne pas se limiter aux connaissances qu'on a sur l'espèce, mais voir, puisque chacun va avoir ses petites manières, ses endroits préférés, etc. Donc c'est un peu rentrer dans leur intimité, les connaître avec les traces, avec tout ce qu'ils peuvent laisser comme traces, avec tout ce que je peux. J'utilise des caméras aussi automatiques, donc qui permettent de voir à quelle heure ils passent, etc., qu'est-ce qu'ils font, et après de venir, mais sans les déranger. Donc ça va être venir quelques heures avant leur passage, des choses comme ça. Il y a une autre facette de mon travail qui est pour les associations. Donc notamment, je vais dans des zoos, dans des cirques, des choses comme ça. Donc là, c'est beaucoup moins agréable pour moi, pour eux aussi. Donc ça, c'est une autre facette du travail. Et après, je fais beaucoup de photos aussi pour les refuges. Donc là, la démarche est différente. On sait où les trouver. Elle est différente pour ça, on sait où les trouver. Par contre, c'est pareil, il faut les observer et puis apprendre à les connaître. Et la difficulté, c'est que quand on les connaît un peu trop, ils viennent chercher des gratouilles et là, ça devient plus difficile à photographier.
On a moins ça avec les insectes, quand même. quand ils viennent chercher des gratouilles, c'est pas forcément agréable en tout cas.
La prochaine question est très bien écrite, donc je me permets de prendre mes notes pour la lire. Le militant états-unien Derek Jensen dit dans son livre Zoo 2. Le cauchemar de la vie en captivité, livre réédité l'année dernière, que nos sociétés ont contribué à développer chez les Occidentaux un intérêt pour les animaux exotiques, qui s'est accompagné par ailleurs d'une méconnaissance progressive des animaux qui vivent à proximité de nous. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous identifiez aussi ce biais qui nous oriente plutôt à l'exotisme, plutôt qu'à ce qu'il y a de commun?
Oui, ça, bah, ça fait partie de ce... On n'en a pas parlé, vous avez demandé les aspects négatifs de tout à l'heure. Ça, ça en fait partie, effectivement, où ça m'est arrivé d'intervenir dans les écoles et où je m'aperçois que autant les enfants arrivent à distinguer un rhinocéros d'un éléphant, et en faisant une perdrix, ça va être beaucoup plus compliqué, alors qu'ils les ont autour de chez eux, quoi. Voilà, il y a un peu ça, il y a ce phénomène. Il y a aussi un des problèmes de la photographie, c'est que là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux sauvages, et il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'animaux sauvages, il y en a de moins en moins, mais on les voit de plus en plus. Donc ça peut être aussi un biais qui fait que... Voilà, et d'autant plus exotique. Il y a toute la question de est-ce qu'on va donner envie si je vais photographier la panthère des neiges. Ça peut donner envie d'y aller, ça peut mettre en place des tours opérateurs, etc. Donc il y a effectivement ce problème-là.
Oui, je dirais qu'il y a un attrait pour l'exotique, mais il y a un attrait pour le spectaculaire aussi. C'est-à-dire que même sur des individus qui vivent autour de nous, on est généralement plus motivé à observer ou à admirer certains papillons par rapport à d'autres, certains qui sont particulièrement grands, le flambé, le macaon, le grand paon de nuit, etc. Et puis des tout petits papillons qui passent un peu inaperçus attirent beaucoup moins l'attention. C'est le cas pour plein d'autres insectes qui sont moins colorés que d'autres ou d'autres qui sont jugés, justement, qui sont mal aimés parce qu'ils sont jugés répugnants. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les blattes, les arachnides, les myriapodes. Voilà. Je sais que c'est des individus qui, généralement, ne suscitent pas vraiment l'admiration et tout. Mais je pense qu'effectivement, il y a aussi un point là-dessus sur les animaux qui sont exploités en élevage. C'est effectivement, on regarde beaucoup de documentaires animaliers. On connaît généralement rhinocéros, girafes, les lions, etc. Et en fait, on sait très peu de choses sur les cochons, les poules. Les animaux qui sont exploités en élevage en général, sur leur cognition, sur leurs états mentaux, sur leurs émotions, etc. C'est d'ailleurs assez caché, quoi. Donc, effectivement, ça a des vraies conséquences. Je pense que c'est intéressant d'en discuter. Hein.
Ah, c'est vrai qu'on a reçu tout à l'heure des représentants de refuges et on voit bien que l'enjeu, c'est qu'on peut aller par le biais effectivement du numérique ou en allant sur place, de pouvoir vraiment apprendre à mieux connaître ces animaux-là. Il y a un enjeu très important à ce niveau-là. Est-ce que le livre que tu as illustré avec le livre de Marc Giraud pour apprendre à reconnaître des animaux communs, c'était la vocation de ce livre-là, de se dire bah, les gens finalement connaissent peu des animaux qui sont dans notre environnement. Et l'idée, c'était de leur apprendre à pouvoir les reconnaître et les nommer.
Ouais. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de proposer un guide qui est vraiment très, très grand public, qui est facile à emporter, qui est petit, léger, synthétique, qui est aussi accompagné de petites astuces, justement, pour se déplacer sans déranger, sans faire trop de bruit, savoir utiliser des jumelles, etc. Il y a plein de petites astuces de pros, comme ça, de naturalistes. Et l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des individus qui nous entourent, mais même les souris, les mulots, effectivement des punaises, des insectes un peu qu'on considère pas trop, savoir distinguer des insectes qui vivent même dans la maison, les moustiques, il y a plein d'individus décrits. Et l'idée, c'est effectivement ça. C'est pour ça qu'il y a un partenariat aussi avec la Fédération des CPN, Connaître et protéger la nature, qui aussi sont dans une démarche didactique pour proposer au grand public une meilleure connaissance des individus qui les entourent, quoi. Donc oui, clairement, il y a un objectif d'appréhender son monde un peu et d'appréhender le monde des autres.
Est-ce qu'il y a un ou des animaux que vous aimez particulièrement photographier ou dessiner, que vous avez vraiment plaisir à aller voir, à observer et à faire découvrir en fait à votre public?
Moi, j'avoue que j'ai une passion pour les arthropodes en général, donc les insectes, les arachnides, les mille pattes, etc. Donc des animaux qui sont souvent jugés un peu répugnants, qui sont mal aimés ou qui font peur parce qu'ils piquent et tout ça. Et je prends plaisir, moi, à essayer de réhabiliter un petit peu les frelons, qui sont des gros pépères en fait. Hein, les frelons, on se rend compte qu'on peut les prendre dans la main. Ils sont très peu agressifs finalement, et quand on adopte un comportement qui n'est pas de l'ordre de l'agression, quand on va pas les déranger, secouer les nids ou faire des gestes comme ça, on se rend compte qu'en fait la peur disparaît assez rapidement et on appréhende mieux aussi le monde de l'autre, hein, comme je disais. C'est à dire que le frelon, s'il a pas peur, il a pas vraiment de raison de venir piquer. J'aime bien réhabiliter ces individus un petit peu grouillants, rampants, là, qu'on n'aime pas trop. C'est un peu... J'adore les insectes.
Et toi, Ludovic, de ton côté ?
Ouais, moi, j'ai pas vraiment de préférence. Effectivement, je te rejoins sur les frelons, j'en ai chez moi, j'adore, quoi. Et mais sinon, ça va être plus de plaisir avec les animaux liminaires. Et c'est assez intéressant.
Est-ce que tu peux éventuellement expliquer aux auditeurs et auditrices que sont les animaux liminaires
si Alors les animaux liminaires, ça va être des animaux sauvages, mais qui vivent dans nos cités et qui n'ont pas besoin de nous pour vivre. Voilà. Et qui, ça va être les rats, les pigeons, les insectes, tous. Et puis et voilà, toutes sortes d'animaux comme ça qui viennent, des renards aussi qui peuvent vivre, alors en France pas trop, mais je sais qu'en Angleterre il y en a beaucoup dans les parcs et ils vivent entièrement en ville. Et,
je sais que j'ai croisé un renard en plein cœur de Tours en fait, une nuit, donc ouais. C'était assez rare. Ouais.
Voilà, et je trouve que c'est super intéressant de les observer, de voir comment ils se débrouillent avec l'humain et comment ils se débrouillent avec les structures humaines qui souvent les empêchent de vivre là. Et ils y arrivent. Ils sont super débrouillards. C'est un plaisir à observer.
Alors, prochaine question. Je préfère poser celle-ci avant celle-là, si tu n'y vois pas d'inconvénient, Jérémy. Est-ce que vous êtes amené à enseigner et à transmettre vos pratiques? Est-ce qu'en plus de performer votre art, est-ce que vous enseignez, vous faites de la sensibilisation autour de vos métiers? Est-ce que vous intervenez en milieu scolaire ou quelque chose comme ça?
Alors, je suis intervenu un peu en milieu scolaire. Après, je fais des formations sur la photographie animalière, donc avec toute la partie éthique, bien sûr, qui va prendre une grande place. Et ensuite, j'ai des demandes pour des stagiaires que je ne peux pas honorer parce que je bouge beaucoup et voilà, un stagiaire ne peut pas suivre, vraiment quoi. Mais oui, dès que j'ai l'occasion, et après j'ai une conférence qui s'appelle la photographie animalière, les dérives de la photographie animalière.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement, les dérives de la pratique de la photographie animalière? Vous en dire quelques mots?
Oui, bien sûr. Alors, ça prend beaucoup de formes. Hein. C'est-à-dire qu'on va essayer d'obtenir, comme disait Florence, le spectaculaire, ça plaît. Donc, on va essayer de faire du spectaculaire et quelque chose qui accroche, que ce soit pour vendre ou que ce soit juste pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Et toutes les pratiques existent, jusqu'à tuer les animaux, voilà, les refroidir pour les insectes notamment. Tous les animaux à sang froid, on va les refroidir. On peut coller aussi certains animaux. Voilà, il faut, en fait, je pense que pour déjouer ça un peu, essayer de comprendre, il faut se demander comment on a pu faire une telle photo et réfléchir quelle technique. Et il y en a beaucoup, on s'aperçoit que c'est pas faisable. Voilà, un escargot sur une grenouille, sur une branche, non, ça, voilà, c'est pas possible du tout. Donc il faut se demander comment ça a été fait. Et c'est pareil, après il y a les dérives aussi, ça va être des photographes animaliers même qui sont pros, qui vont faire la repasse par exemple, ça va être d'imiter le cri d'enregistrer des cris d'oiseaux pour les attirer, pour qu'ils viennent au plus près pour pouvoir les photographier. Et ça peut conduire à des abandons de nids, etc. Et là, c'est juste sur les pratiques, on ne parle même pas des gens qui rentrent dans les milieux naturels avec bruit et fracas. Quoi.
Et cette conférence, tu as eu l'occasion de la faire devant quel public? Qui sont intéressés en général par ces questions-là?
C'est varié. J'ai eu l'occasion de la faire lors de manifestations de la cause animale. Donc là, il y a quand même beaucoup de gens de la cause animale, mais qui connaissent pas en fait ces pratiques. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que ce qui m'a poussé à la faire, cette conférence, c'est que j'avais trouvé des illustrations comme ça qui étaient abominables pour les animaux dans des livres de cause animale en fait, qui réunissaient plusieurs auteurs. Et l'iconographie avait été choisie par d'autres personnes et qui ne connaissaient pas visiblement tous les problèmes qu'il peut y avoir. Quoi. Donc c'est ce qui m'a poussé à le faire. Après, je l'ai produite aussi sur d'autres publics, hein, sur des expos que j'ai pu faire qui étaient moins ciblées sur la cause animale. Et voilà, c'est pareil. Mais même au sein de la cause animale, très peu de gens savent ce qui se passe derrière certaines images.
Merci. Est-ce que Florence, tu enseignes ou tu transmets tes pratiques?
Alors, c'est via les supports en fait qui sont édités. Vraiment, moi, je fais pas d'enseignement directement, en tout cas pas sur l'illustration scientifique à proprement parler. C'est pareil, j'ai beaucoup de demandes de stage aussi que je reçois, mais j'ai du mal à les honorer aussi parce que mon contexte s'y prête pas beaucoup et je priorise aussi des actions plutôt de vulgarisation sur l'éthique animale. C'est plutôt de ce côté-là en fait que je vais effectivement donner des conférences ou faire de la vulgarisation. Donc sur des questions, expliquer ce qu'est l'antispécisme, expliquer le point de vue, expliquer ce qu'est la sentience par exemple. Donc le fait pour un individu de ressentir des expériences négatives ou positives, donc de pouvoir souffrir, de pouvoir prendre du plaisir, etc. Donc c'est plutôt ces sujets-là sur lesquels je vais faire de la vulgarisation, des conférences, des articles ou ce genre de choses. Et sur mon métier, beaucoup moins finalement, et je délègue un petit peu aux maisons d'édition et aux structures qui justement éditent les livres, les panneaux pédagogiques par exemple, ou les clés d'identification qui sont des documents qui servent pour les balades, savoir quel est cet insecte, quel est cet oiseau, etc. Donc moi directement non, je fais pas d'enseignement.
Ceci dit, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui voudraient se lancer dans la pratique de l'illustration ?
Oui, je suis autodidacte aussi, moi. Ouais. Alors j'ai un peu ce truc de jamais trop savoir quel conseil donner, parce que je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde. Moi, j'ai démarré avec une boîte d'aquarelle et puis je me suis lancée. Voilà. Et puis après, c'est des heures et des heures et des heures de pratique et des mois et des années. Je ne sais pas, peut-être la ténacité, voilà, de pas arrêter de pratiquer, d'essayer d'observer aussi sur le vif, quitte à ce que le dessin ne soit pas très satisfaisant au départ, mais se poser dans un carré d'herbe et puis y passer une heure et croquer une feuille. Alors croquer dans le sens dessiné, parce que tout n'est pas comestible. Hein. Attention. et croquer des insectes et croquer des oiseaux. Voilà. Mais passer du temps à regarder davantage son sujet que sa feuille. Ne pas se forcer si on n'a pas d'intérêt. Si on a un intérêt, c'est vrai que ça peut avancer vite. En fait, c'est aussi le fait d'avoir la passion, d'avoir une motivation qui fait que ça va fonctionner. Mais à part des heures de pratique, je ne sais pas trop quel conseil donner.
Ce sont déjà de bons conseils. Merci Florence. Ludovic, toi, pour la pratique de la photographie, quel conseil tu donnerais ?
De commencer par observer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et de regarder ce qui se fait en photo, essayer de comprendre comment elles sont faites. Ça, c'est la base, je pense. Et puis après, on peut envisager de prendre un appareil photo.
Très bien. Merci Ludovic. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement dans le public ?
Alors, je tiens à préciser que je vais vous passer le micro pour poser des questions si vous en avez. Quand vous allez parler dans le micro, vous n'allez pas vous entendre sur les enceintes. Donc n'hésitez pas à parler un peu fort pour que le reste de l'audience entende vos questions, qui seront ensuite répondues par les personnes qui ont un micro devant elles.
Oui, je serais très curieuse de savoir si un de vous deux ou les deux a déjà eu des interactions ou vu des interactions, parce que vous parlez d'individus pour tous les animaux, y compris les insectes notamment. Et je pense que c'est assez délicat pour tout un chacun s'imaginer, de se projeter sur la vision individu d'un insecte, par exemple, ou d'une araignée, enfin... tous ces animaux comme ça qui ne sont pas des mammifères, qui sont très proches, qui sont très loin de nous, qui sommes des mammifères. Est-ce que vous avez déjà expérimenté des choses, été témoin de choses, ou vous-même a eu des interactions spécifiques qu'on pourrait relier à un individu, par exemple ?
Alors, moi, j'avoue que je ne saurais pas répondre précisément à la question, parce que j'ai eu des interactions avec des individus appartenant à certaines espèces, mais des individus uniques, d'espèces que je n'ai pas recroisées par la suite. Et donc, les comportements que j'ai observés, je peux créer des inférences sur le fait que probablement les individus appartenant à cette espèce ont une tendance à se comporter comme ça, mais je ne peux pas non plus en être sûr. Ça participe un peu de mon émerveillement d'ailleurs, parce que ça m'est déjà arrivé d'observer des staphylins, donc de tout petits insectes qui ont replié leurs ailes sous leurs élytres avec leurs pattes postérieures. Et ça, c'est des comportements que j'ai observés qu'une seule fois, un endroit unique, etc. Donc c'est un comportement individuel, voilà. Mais bon, c'est vrai que les comportements qu'on observe chez certains groupes, enfin chez certains individus, on peut souvent les extrapoler au groupe, quoi. J'ai eu des interactions avec des frelons, justement, qui venaient plus ou moins dans la main, qui étaient plus ou moins peureux. Donc j'imagine qu'il y a quand même des variabilités individuelles aussi, même chez les insectes. Donc c'est vrai qu'avec c'est ce genre de groupe d'animaux où on est effectivement très très éloigné. Et c'est pareil avec certains animaux aquatiques, hein, avec des poissons, avec des crevettes, etc. C'est très compliqué, quoi, de créer des liens individuels. Mais j'imagine que malgré tout, il y a quand même des variations, parce que je prenais le cas de certains insectes sociaux où tous les individus ne se comportent pas exactement de la même façon. Et ouais, c'est intéressant. Alors, donc voilà, peut-être avec les hyménoptères, voilà, les frelons, les guêpes aussi, un peu, enfin les autres guêpes.
Ouais, moi j'en ai eu ouais, pas mal, et des trucs assez amusants aussi à observer. Alors avec des individus plus proches de nous, avec des mulots qui m'avaient repéré, hein, bien sûr, mais qui, puisque je ne me cachais pas, et qui me testaient un peu, qui regardaient ce que je faisais, qui m'ont observé, qui même passent derrière pour voir l'ensemble de la bête. Et voilà. Et des frelons aussi, c'est marrant parce que j'ai un nid de frelons qui s'est installé dans une petite cabane chez moi où j'ai les outils. Donc il faut que je passe sous le nid de frelons qui est énorme avec des centaines de frelons. Ça, tu pourras me dire combien il y a de frelons dans un.
Ouais, exactement, je sais pas. J'avoue que je sais pas. Mais j'en ai eu un dans mon garage une fois, je l'avais laissé aussi, énorme, et ouais. Je pense qu'ils étaient bien une centaine, ouais.
Et c'est assez marrant de voir que, en fait, il y a toujours ceux qui sont prêts à donner l'alerte, donc qui observent. Et qui nous reconnaissent, en tous les cas. Enfin, moi, au bout d'un moment, je voyais que leur comportement, ils étaient moins sur la défensive. Et ils nous reconnaissent et ils savent qu'on va passer dessous, juste prendre des outils, repartir. Et puis, on vit en bonne entente et il n'y a aucun souci, quoi. Et pour finir sur les frelons aussi, j'ai un arbre qui perdait sa sève et qui est sucré, donc c'était à l'automne. Qui est sucré, qui finit par devenir alcoolique, la sève. Et il y a les frelons asiatiques et européens qui venaient boire cette sève, manger cette sève, parce qu'il n'y a plus tellement de fruits. Enfin, voilà. Et je les voyais, ils avaient du mal à repartir de l'arbre, en fait. Et ils étaient bourrés. C'est-à-dire, je les voyais tomber par terre, ils commençaient à voler, ils tombaient par terre, ils avaient du mal à remonter sur les brindilles. Et voilà, c'était le troquet du coin, ils ressortaient tous, c'était la fête, quoi, ils ressortaient tous bourrés.
L'histoire ne dit pas si en rentrant au nid, ils se faisaient engueuler. C'est pas.
Ah, je suis pas allé vérifier.
Question, n'hésitez pas. Ouais.
Est-ce qu'au niveau des insecticides, il y a pas mal de voies de disparition ?
Ah oui, effectivement, dans les données dont on dispose, et notamment les études assez récentes, montrent qu'effectivement, il y a un impact de l'agriculture dite intensive, et notamment de l'usage des pesticides, qui fait que, oui, effectivement, il y a des populations entières qui s'effondrent et qui tendent à disparaître. C'est un phénomène qui, a priori, s'accélère et prend des proportions là, assez inédites, qui se cumulent aussi avec d'autres facteurs liés au changement climatique, etc., à l'emprise aussi sur les habitats, la destruction des habitats, etc. Mais effectivement, oui, il y a un impact sur les populations, diverses populations animales, notamment les insectes, d'autres arthropodes, les oiseaux aussi. Enfin, ouais.
Ouais, les lapins aussi, avec l'artificialisation des sols, où les champs qui deviennent de plus en plus grands, on rase toujours des encore aujourd'hui. Enfin, ça, c'est assez fou. Et voilà, moi j'avais trois garennes que je connaissais, enfin où je connaissais les individus, qui ont disparu. Deux garennes qui ont disparu et une. Donc la garenne, c'est l'habitat des lapins, deux garennes. Et l'autre qui a été touchée par la myxomatose. Donc voilà, grosse disparition aussi. Les lapins aujourd'hui sont en voie de. Enfin, diminuent en France, quoi. Mmh. Et c'est assez fou.
Ouais, les hérissons aussi, les populations de hérissons se sont effondrées aussi. Enfin, ouais, y a beaucoup de disparitions, ouais.
Une nouvelle question. On a de l'avance, donc n'hésitez pas. Je peux aller jusqu'à derrière, hein. C'est pas parce que je reste là que.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation.
Merci pour l'invitation, c'était un plaisir.
Et bonne continuation, beaucoup. Et puis on peut vous retrouver sur vos stands respectifs.
Tout à fait.
Voilà, donc n'hésitez pas.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
miracles in the air. Unguarded particles in the air. Do you see particles in the air? Nobody notices, nobody cares. Oh, don't try to tell us she's less feline than human. Tell her she's less feline.